Donc on vit des grands changements en ce moment dans notre monde. Et il y a une petite phrase qui revient souvent. Et on se dit peut-être à soi-même, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Et c'est une période où on a besoin de repères, où on a besoin d'ancrage, on a besoin d'être rassuré. Besoin de trouver un sens à tout ce qui se passe, à tous ces bouleversements dans notre société, dans notre monde entier. On a peut-être aussi des besoins personnels, chacun au fond de notre cœur. Et heureusement, nous avons la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. La parole de Dieu est là pour nous personnellement ce matin. Et donc, on va le faire... Avec le livre de Daniel. On va se nourrir avec le livre de Daniel ce matin. Daniel, on verra le chapitre 1, on verra le chapitre 2. Alors on va commencer par le chapitre 1. Je vais faire une petite présentation. Vous pouvez chercher si vous avez vos Bibles, ou alors vous pouvez suivre et écouter. Alors, nous sommes... Donc 600 ans avant Jésus-Christ, l'Orient est en plein bouleversement. Vous voyez les flèches ici qui indiquent les mouvements des armées. C'est des grands empires qui s'affrontent. On a l'empire de Babylone ici. Enfin, Babylone qui, avant c'était l'empire assyrien. Et Babylone a pris son indépendance et elle est partie à la conquête du grand empire assyrien avec l'aide des Mèdes, qui sont venus à son renfort, et la grande capitale Ninive a été prise, et les Babyloniens veulent poursuivre encore leur avancée, et ils veulent conquérir tout l'empire assyrien. Et les Égyptiens, eux, de leur côté, l'autre grand bloc, se dit c'est peut-être l'opportunité pour faire des conquêtes et étendre notre influence. Alors ils partent de chez eux avec une grande armée et ils remontent pour aller affronter les Babyloniens et les Mèdes à Carchemish. Et là, il y a eu une grande bataille qui a été perdue par les Égyptiens. Le général babylonien Nebuchadnezzar a été ressorti le grand vainqueur. Et il est général, c'est son père qui règne à Babylone. Et Nebuchadnezzar ne veut pas s'en arrêter là. Et il veut poursuivre les Égyptiens et il veut prendre tout ce qui est dans leur zone d'influence, soi-disant, et donc tout ce qui est entre ces deux blocs ici. Et c'est là où se trouve la Judée, c'est là où se trouve Jérusalem. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation en Jérusalem? La situation n'est pas très bonne. Malgré les apparences, les Israélites sont idolâtres. Hein. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a beaucoup de péchés qui se commettent. Il y a beaucoup de choses qui se font en secret, malgré une apparence religieuse. Et les prophètes sont là, ils dénoncent ça. Le prophète Michée, le prophète Jérémie, ils disent au peuple de revenir à l'Éternel. Ils dénoncent tout ce qu'il n'y a pas, tout ce qui ne va pas. Et bien sûr, dans ce cas-là, ils sont très impopulaires. Et le roi lui-même n'est pas du tout enclin à ce que les discours de Jérémie soient portés au grand public. Et publiquement, il va déchirer les paroles de Dieu et il va les mettre à la poubelle. Il va les mettre à la poubelle. Il va les brûler. Mais c'est une illusion de croire qu'ils sont en sécurité par des fortifications, par de la diplomatie ou par la présence du temple de l'Éternel parmi eux. Et donc, nous sommes dans ces conditions-là, de grands bouleversements géopolitiques. et de dépression spirituelle. Je vais lire maintenant des extraits de ce premier chapitre de livre de Daniel. La troisième année du règne de Joachim sur Juda. Joachim, c'est le roi qui a brûlé la parole de Dieu. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marche contre Jérusalem et en fait le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelque Israélite de sang royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes garçons, sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents. Des jeunes gens capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils rentreraient à son service. Il y avait pour eux des Judéens parmi ces jeunes gens, donc Daniel, Anania, Michaël et Azaria, 3 jeunes adolescents. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach. Michaël se nommerait Meshach et Azaria s'appellerait maintenant Abednego. Mais Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je redoute, mon seigneur le roi, c'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. Donc Daniel propose ceci. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. L'intendant leur accorda ce qu'ils demandaient et il fit avec eux un essai pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient des plats servis à la table du roi. L'intendant retira donc les plats et le vin qui leur était destiné et il leur donna des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar, le grand roi. Le roi discuta avec eux Et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, à tous les astrologues présents dans son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Alors, quelques réflexions. J'ai remarqué que ces jeunes gens ont vécu des choses extraordinaires, hors du commun, des choses difficiles aussi, mais qui n'y étaient pour rien. Ce sont des déportés, finalement. Ils commençaient à peine à rentrer dans la vie, et les voilà embarqués loin de leur famille, loin de leur culture, loin du sanctuaire de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils sont déportés dans une situation dramatique. Ils ne vont pas faire des études universitaires avec le programme Erasmus dans un pays étranger, non. Ils vivent une véritable catastrophe. On peut peut-être se mettre dans la peau de ces jeunes ou dans la peau de leurs parents. Pensant à si nos enfants étaient pris, étaient arrachés de leur maison, de leur foyer, pour aller étudier dans un pays lointain, dans une école islamique. Ce serait pour nous une catastrophe. Quelle horreur. Et on leur a même donné des noms de divinités babyloniennes, comme pour effacer leur passé, tous leurs souvenirs à Jérusalem. Ils n'y reviendraient jamais. Ils n'y sont pour rien, pourtant. C'est pas leur faute. Si l'Égypte et la Mésopotamie s'affrontent et que Israël se trouve au milieu, c'est pas leur faute si leurs parents et grands-parents ont péché, sont devenus idolâtres, se sont détournés de Dieu. C'est pas leur faute s'ils sont nés dans une famille de nobles, s'ils sont beaux et instruits, et s'ils ont été choisis par le chef des eunuques. C'est pas leur faute tout ça, et pourtant, ils sont prêts à l'accepter, à accepter leur situation, mais quand même, il y a une condition. Ce sont des ados qui veulent rester fidèles à leur Dieu. Verset 8, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller, se salir en consumant, en mangeant les plats servis à la table du roi et le vin des banquets. Pour eux, rester fidèle à Dieu est une priorité et cela consiste à ne pas manger les viandes qui sont et les plats qui sont sacrifiés à des idoles. Manger de façon variée, c'est important. C'est important pour la santé et ils sont prêts, eux, à délaisser les plats succulents qui sont servis à la table du roi pour ne se contenter que de légumes et boire de l'eau plate. Hein? Tout le monde sait que les ados adorent manger les légumes et boire l'eau plate. Et de plus, personne n'est là pour les encourager. Qui se soucie d'eux à Babylone? Et puis même, ils sont loin du Dieu d'Israël, ils sont loin du sanctuaire. Est-ce que Dieu se soucie d'eux perdus dans un pays étranger, dans une autre culture, dans un autre monde? Oui, Dieu se soucie d'eux. Parce que le Dieu d'Israël est le Dieu, le souverain de tout l'univers. Le Dieu d'Israël honore ce qu'il honore, où que ce soit. Et Dieu, on l'a entendu, va intervenir dans leur vie de 3 manières différentes. Il leur donne la faveur du chef des eunuques. Moi, si j'avais été à la place des chefs des eunuques, j'aurais dit, c'est quoi là ce séparatisme religieux? Pas question, vous mangez comme tout le monde. Je vais pas perdre mon travail, je vais pas risquer ma tête à cause de vous. Moi, c'est ce que aurait été ma réaction. Mais Dieu tourne le cœur du chef des eunuques pour qu'il ait de la bienveillance envers eux. Dieu leur conserve une bonne santé, et c'est un miracle. Ils ne subissent pas de carence alimentaire. Et il leur donne en plus des capacités extraordinaires. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse, avons-nous lu. Et le roi va trouver ces petits-là plus intelligents que tous les fonctionnaires à son service. Est-ce que Dieu les récompense ainsi de leur fidélité? C'est pas très juste de voir les choses comme ça. Dieu a plutôt un plan en vue. En effet, comme le chef des eunuques a rencontré, a été confronté à l'œuvre du Dieu d'Israël, le roi lui-même doit y être confronté, doit le rencontrer. Et c'est la suite maintenant de notre histoire. On va voir le chapitre 3 de Daniel, on saute le chapitre 2 et on sera au chapitre 3. On va faire une lecture maintenant. Alors j'ai sollicité des lecteurs. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de vos rôles et de vos couleurs. Voilà pour la narratrice. Et là c'est pour le bleu. Pour Morel. Et ça ira, famille Chazal. Oui, donc. C'est la couleur que vous avez à lire. La couleur verte et jaune. Enfin, il n'y a pas de jaune, c'est du rouge. Vert et rouge. Voilà, vert. Rouge pour Jean et vert pour Marilyn. Alors. Je vous laisse commencer la lecture. Il faut enlever le masque. Il faudra enlever le masque pendant la lecture et parler vraiment à haute voix. Hein, à haute voix.
Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Un héros cria à pleine voix.
Ah, c'est Marie.
Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous tous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente.
C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar :
Roi, puisses-tu vivre toujours ? D'après l'ordre que tu as donné, tous ceux qui entendent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue en or que tu as dressée.
Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit:
est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir?
Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar:
nous n'avons pas besoin de te répondre à la question. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de nos fournaises ardentes. Il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Et
Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis, il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. Et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers:
n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu?
Certainement, roi.
Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, sans être blessés, et le 4e ressemble à un fils des dieux.
Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit:
Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez.
Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit:
béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de dépendre. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui.
Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Alors on l'a compris, on est bien après le... bien après l'affaire de la formation, ils sont devenus des hommes maintenant, ils sont au service du roi. Mais ils sont face à un défi. connaissez le commandement de l'Éternel, le premier et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ma face. Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut, aux cieux ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tu ne leur rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Exode 23. Et par rapport à leur foi, donc, ces trois jeunes hommes se sont trouvés au mauvais endroit et au mauvais moment. Impossible de fuir, il n'y avait que deux possibilités pour eux. Soit ils adoraient la statue faite par le roi, et à ce moment-là, ils allaient mourir. Soit ils décidaient de ne pas le faire, et à ce moment-là, ils allaient mourir. Et c'est le choix qu'ils ont fait. En fait, ils sont des hommes sûrs, non pas d'eux-mêmes, mais ils sont sûrs de leur Dieu. Notre Dieu, celui que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache que de toute façon, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. C'est clair. Face à l'épreuve, la question n'est pas de savoir est-ce que je vais pouvoir résister, est-ce que je vais tenir le coup, est-ce que je vais rester fidèle. Non, la bonne question c'est est-ce que je peux compter sur Dieu? Est-ce que Dieu, lui, peut me soutenir? Et la réponse, bien sûr, est oui. Dieu peut garder et peut délivrer. Et même si ils avaient dû mourir, finalement, ils auraient été délivrés de cette situation dans laquelle ils se trouvaient là-bas à Babylone. Dieu délivre ceux qui lui sont fidèles. C'est la grande leçon de cette deuxième épreuve qu'ils ont eue. Dieu délivre ceux qui lui sont fidèles. Et il est intervenu de trois façons pour les trois amis. Il les a protégés physiquement, c'est évident. Ils ne sont pas brûlés, leurs vêtements n'ont pas été touchés par le feu, il n'y a que leurs liens qui sont tombés. Et Dieu est intervenu, il les a accompagnés. Il ne les a pas laissés tout seuls dans la fournaise, non, il y avait là un quatrième homme avec eux. Il les a accompagnés dans l'épreuve, et ça c'est quelque chose de significatif jusqu'à aujourd'hui. Dieu a également étendu cette délivrance plus qu'à leur propre cas. Il a étendu cette délivrance aussi à tout le peuple juif. En effet, le droit a déclaré « Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation, sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en tas de décombres, car il n'y a aucun Dieu capable de délivrer comme lui. » Et les années ont passé et hélas, il y a eu une déportation à Jérusalem. Les rois à Jérusalem s'est soulevé. Le roi Joachim s'est soulevé une nouvelle fois contre Nebuchadnezzar et les armées babyloniennes sont revenues à Jérusalem et il y a eu un nouveau siège, mais là, cette fois-ci, il y a eu des déportations massives de population. Des milliers de juifs ont été déportés à Babylone et ils se trouvent là, dans le royaume. Et par ce décret du roi, toutes ces personnes vont être protégées par un ordre royal, un ordre impérial. Dieu a étendu la délivrance bien au-delà du cas de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Leur acte de courage a profité en fait à tout le peuple. Dieu délivre ceux qui lui sont fidèles. Faisons un bilan de ces deux histoires. Et ce qui ressort, c'est que Dieu, il est au contrôle, il est aux commandes. C'est lui, en fait, qui a les rênes du vrai pouvoir. Il a permis, c'est lui qui a permis la déportation de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria. C'est lui qui a permis cela. Et c'est lui qui les a protégés et qui les a bénis. C'est lui qui s'est fait en même temps connaître au centre du pouvoir impérial. Et c'est lui qui est au contrôle du plus puissant despote de l'univers à ce moment-là. Alors si Dieu est au contrôle, il n'y a pas à paniquer par rapport à la marche de notre monde. Le monde n'est pas aux mains de puissants comploteurs. Non, Dieu est au contrôle de sa création. Première leçon, Dieu est au contrôle. Deuxièmement, il n'y a pas d'élite devant Dieu. Daniel et ses amis peuvent être paraître bien privilégiés. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils vivent de super aventures. Oui. Il y a un détail douloureux dans le texte. Ils sont placés sous la responsabilité du chef de qui ? Du chef des eunuques. Et ça sous-entend que ces jeunes gens ont été castrés. Comme ça, ils sont pas distraits avec les filles, ils gaspillent pas leur temps. Cela va faire des fonctionnaires entièrement consacrés à la cause royale. Dans la vraie vie, faire partie des élites ne veut pas dire connaître le bonheur. Est-ce que vous avez fréquenté de ceux qui sont à la tête, de ceux qui dirigent ? Bien modestement, moi j'ai affaire dans mon travail aux commerciaux qui sont les personnes les mieux payées de la société là où je travaille. Mais je n'envie pas ni leur travail, ni leur place. Ça ne m'attire pas du tout. Devant Dieu, il n'y a pas d'élite. Il y a un Dieu qui donne à chacun des capacités, des conditions familiales, des conditions sociales très variées sur toute la face de la terre et qui a des projets uniques pour chacune d'eux, pour chacune de ses créatures. Des projets dans lesquels il va falloir entrer. Sur la croix, Jésus-Christ s'est donné sans distinction. Son amour et sa bienveillance sont entiers. Et il connaît la situation de chacun. Les hommes dressent des échelles sociales qui sont toujours trop courtes, on le sait bien. Le salut, ce n'est pas de grimper l'échelle sociale. Le salut, c'est de passer par la porte qui est Jésus-Christ. Et il a fait la promesse que là, on trouverait une vie abondante. Je suis la porte. Celui qui passera par moi sera sauvé. Il n'y a pas d'élite devant Dieu. Dieu donne du sens. Imaginez si ces trois amis, et il y avait d'autres qui partaient avec lui, ceux qui étaient des autres petits royaumes, tout autour de Juda et qui avaient vu certainement aussi leur élite déportée. Imaginez ces trois amis en chemin vers Babylone sans avoir la foi. Sans avoir la foi. Des ados attachés, mutilés, conduits à l'autre bout du monde. Quel sens donner à cela ? Quelle autre réponse que de faire éclater sa violence ? Ou bien chercher par tous les moyens à sauver sa vie ? Ou bien apprendre à dévorer pour ne pas être dévoré. Mais grâce à leur foi en Dieu, même dans ce moment terrible, leur vie a eu du sens. Les quatre amis sont entrés dans le plan que Dieu avait prévu pour eux. Et ils ont été acteurs. Ils ont été acteurs. Dieu avait un plan pour eux. Il voulait faire des choses à travers eux. Il voulait parler au plus grand roi que comptait la terre à ce moment-là. Des grandes choses se sont réalisées parce qu'ils ont été acteurs avec Dieu. Ils sont rentrés dans le plan que Dieu avait pour leur vie. Dieu donne du sens. Dieu donne du sens à l'existence, à la vie et à tout ce qui se passe. Je vais en rester là pour ce matin. Voilà. Des jeunes gens qui savent parler à nous, qui la majorité ici, on est adultes. Bon, ça aurait été super d'avoir quelques ados ce matin, mais ils nous parlent, ces trois jeunes gens, ils nous parlent par leur fidélité, ils nous parlent par leur prise de position, et ils n'ont pas eu peur. Et Dieu a été au rendez-vous pour eux. Alors on peut prier maintenant. Seigneur, tu es un grand Dieu, nous sommes tout petits. Et combien de fois on oublie que toi, tu es grand, tu as créé l'univers et tu donnes la vie et le souffle de la vie à tous et à chacun. Tu as tout organisé, tout prévu, tu es un Dieu d'ordre et rien n'échappe à ta souveraineté et à ton contrôle. Et tu utilises toutes choses comme tu l'entends. Tu as permis que ces trois jeunes amis puissent vivre ces choses si terribles dans leur vie. Et en même temps, tu as été avec eux. Et tu leur as conduit à ce que, à travers leur histoire, leurs expériences, leur engagement, ils nous parlent à nous aujourd'hui pour nous rassurer, pour nous consoler, pour nous dire que tu es là, que tu n'as pas changé, que tu es le même et que l'on peut vraiment te faire confiance et que avoir la foi, cela change tout. Cela change tout. Si notre repère s'effondre, si on peut ne plus avoir de certitude quant à l'avenir, nous pouvons avoir la certitude que toi, tu es là, tu es au contrôle, tu sais ce qui se passe, tu sauras rendre la justice en son temps, te faire connaître en son temps. Et tu nous permets de rentrer dans le plan d'amour que tu as pour toute l'humanité. Sois béni, notre Père céleste, en Jésus-Christ. Amen.